supplie. » Mais Pascal, sourdement, s'entêtait à finir debout. La passion d'être encore, l'idée héroïque du travail, persistait en lui, l'emportait comme une masse. Il râlait, il balbutiait « Non, non, là-bas, là-bas !» Il fallut que son ami le soutînt, et il s'en alla ainsi, trébuchant et hagard, jusqu'au fond de la salle, et il se laissa tomber sur sa chaise, devant sa table, où une page commencée traînait, parmi le désordre des papiers et des livres. Là, un moment, il souffla, ses paupières se fermèrent. Bientôt, il les rouvrit, tandis que ses mains tâtonnantes cherchaient le travail. Elles rencontrèrent l'arbre généalogique au milieu d'autres notes éparses. L'avant-veille encore, il y avait rectifié des dates. Et il le reconnut, l'attira, l'étala. « Maître, maître, vous vous tuez !» répétait Ramon frémissant, bouleversé de pitié et d'admiration. Pascal n'écoutait pas, n'entendait pas. Il avait senti un crayon rouler sous ses doigts. Il le tenait. Il se penchait sur l'arbre, comme si ses yeux à demi éteints ne voyaient plus. Et, une dernière fois, il passait en revue les membres de la famille. Le nom de Maxime l'arrêta. Il écrivit « Meurt ataxique » en 1873, dans la certitude que son neveu ne passerait pas l'année. Ensuite, à côté, le nom de Clotilde le frappa, et il compléta aussi la note, il mit « A » en 1874, de son oncle Pascal, un fils. Mais il se cherchait, s'épuisant, s'égarant. Enfin, quand il se fut trouvé, sa main se raffermit. Il s'acheva d'une écriture haute et brave. « Meurt d'une maladie de cœur le 7 novembre 1873. » C'était l'effort suprême. Son râle augmentait, il étouffait. Lorsqu'il aperçut, au-dessus de Clotilde, la feuille blanche, ses doigts ne pouvaient plus tenir le crayon. Pourtant, en lettres défaillantes, où passait la tendresse torturée, le désordre éperdu de son pauvre cœur, il ajouta encore « L'enfant inconnu, à naître en 1874, quel sera-t-il ?» Et il eut une faiblesse. Martine et Ramon purent à grand-peine le reporter sur le lit. La troisième crise eut lieu à 4h15. Dans cet accès final de suffocation, le visage de Pascal exprima une effroyable souffrance. Jusqu'au bout, il devait endurer son martyre d'homme et de savant. Ses yeux troubles semblèrent chercher encore la pendule pour constater l'heure. Et Ramon, le voyant remuer les lèvres, se pencha, colla son oreille. En effet, il murmurait des paroles, si légères qu'elles étaient un souffle. 4 heures, le cœur s'endort, plus de sang rouge dans l'aorte, la valvule mollit et s'arrête. Un râle affreux le secoua, le petit souffle devenait très lointain. « Ça marche trop vite, ne me quittez pas, la clé est sous l'oreiller. Clotilde, Clotilde !» Au pied du lit, Martine était tombée à genoux, étranglée de sanglots. Elle voyait bien que monsieur se mourait. Elle n'avait point osé courir chercher un prêtre, malgré sa grande envie. Et elle récitait elle-même les prières des agonisants. Elle priait ardemment le bon Dieu pour qu'il pardonnât à monsieur et que monsieur allât droit en paradis. Pascal mourut. Sa face était toute bleue. Après quelques secondes d'une immobilité complète, il voulut respirer. Il avança les lèvres, ouvrit sa pauvre bouche, un bec de petit oiseau qui cherche à prendre une dernière gorgée d'air. Et ce fut la mort, très simple. Chapitre 13. Ce fut seulement après le déjeuner, vers 1 heure, que Clotilde reçut la dépêche de Pascal. Elle était justement, ce jour-là, boudée par son frère Maxime, qui lui faisait sentir, avec une dureté croissante, ses caprices et ses colères de malade. En somme, elle avait peu réussi auprès de lui. Il la trouvait trop simple, trop grave pour l'égayer. Et maintenant, il s'enfermait avec la jeune Rose, cette petite blonde à l'air candide qui l'amusait. Depuis que la maladie le tenait immobile et affaibli, il perdait de sa prudence égoïste de jouisseur, de sa longue méfiance contre la femme mangeuse d'hommes. Aussi, lorsque sa sœur voulut lui dire que leur oncle la rappelait et qu'elle partait, eut-elle quelque peine à se faire ouvrir, car Rose était en train de le frictionner. Tout de suite, il l'approuva, et s'il la pria de revenir le plus tôt possible, dès qu'elle aurait terminé là-bas ses affaires, il n'insista pas, uniquement désireux de se montrer aimable. Clotilde passa l'après-midi à faire ses malles. Dans sa fièvre, dans l'étourdissement d'une décision si brusque, elle ne réfléchissait pas. Elle était tout à la grande joie du retour. Mais, après la bousculade du dîner, après les adieux à son frère et l'interminable course en fiacre de l'avenue du Bois de Boulogne à la gare de Lyon, lorsqu'elle se trouva dans un compartiment de dame seule, partie à 8 heures, en pleine nuit pluvieuse et glacée de novembre, roulant déjà hors de Paris, elle se calma, fut peu à peu envahie de réflexions, finit par se sentir troublée de sourdes inquiétudes. Pourquoi donc cette dépêche, immédiate et si brève? Je t'attends par ce soir. Sans doute, c'était la réponse à la lettre où elle lui annonçait sa grossesse. Seulement, elle savait combien il désirait qu'elle restât à Paris, où il la rêvait heureuse, et elle s'étonnait maintenant de sa hâte à la rappeler. Elle n'attendait pas une dépêche, mais une lettre, puis des arrangements pris, le retour à quelques semaines de là. Était-ce donc qu'il y avait autre chose? Une indisposition peut-être, un désir, un besoin de la revoir sur l'heure? Et dès lors, cette crainte s'enfonça en elle avec la force d'un pressentiment, grandit, la posséda bientôt tout entière. Toute la nuit, une pluie diluvienne avait fouetté les vitres du train.